Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Avez-vous déjà entendu parler des Pizli? Ou, moins poétique mais beaucoup plus drôle, des gros lards. Dans les deux cas, nous parlons ici du fruit de l'amour entre un grizzly et un ours polaire. Si papa ours est un grizzly alors que maman ours vient de la banquise, bébé ours s'appellera gros lard. Dans le cas contraire, il s'appellera pizzly. Vous avez sans doute remarqué ma délicate périphrase pour désigner ce qu'on appelle plus sérieusement l'hybridation. D'autres exemples existent, la mule est très connue, mais il y en a d'autres. Aline, si je te dis, le ligueur ou le tigon?
Lion et tigre.
Bien joué. Le sanglochon, facile.
Ouais, sanglier, cochon.
Le kama, plus dur.
Oh, le kama, je l'ai pas.
Kama et lama et dromadaire, camel.
Pas mal.
Le zorse.
Le zorse, c'est de l'anglais aussi, le cheval avec un zèbre.
Ouais. Alors en 2019, selon National Geographic, des scientifiques ont aussi découvert le narluga, beluga et narval. Et en 2020, c'est un croisement entre un cardinal à poitrine rose et un piranga écarlate qui défrayait la chronique tant ces deux espèces semblaient éloignées. Alors quant à nous, sapiens, la question se pose toujours, ne sommes-nous pas le fruit d'hybridation avec Néandertal ou Denisova? Si le phénomène n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît, elle n'en pose pas moins des questions. Alors s'agit-il simplement de petites amourettes anecdotiques et stériles, ou peuvent-elles donner naissance finalement à de nouvelles espèces? C'est une des questions auxquelles va répondre notre invité aujourd'hui. Il s'est penché sur une espèce très particulière de papillon. Il est chercheur au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et il co-signe avec ses partenaires, notamment britanniques, dans Nature, un papier intitulé « Spéciation hybride entraînée par l'introgression, multilocus des traits écologiques ». Il va nous simplifier tout ça. Mathieu Geron, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Alors, elle est le fruit d'une hybridation inconnue, j'ai fait plein de tests, je ne les dirai pas. Avec moi en studio, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous retournons à SemiPy, le centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse, une plateforme régionale de biosécurité de niveau 3. Enfin, c'est Nathan Roux chargé de... C'est dur là. Enfin, c'est Nathan Roux, chargé des relations presse à l'Université de Montpellier, qui viendra nous présenter le dernier bar des sciences. Et voilà, Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors Mathieu Geron, on va commencer par la base. Donc dans la classification scientifique des animaux, on parle d'abord du règne, puis de l'embranchement, de la classe, de l'ordre, de la famille, du genre, et pour remonter finalement à l'espèce. Mais une espèce, qu'est-ce que c'est exactement? À quel moment est-ce qu'on considère que deux animaux font plus partie de la même espèce?
Alors ça, c'est une question qui occupe les biologistes depuis un certain temps. Et d'ailleurs, c'est une question qui, d'une certaine manière, n'a pas de réponse, puisque la différence entre deux espèces et la formation des espèces est un processus graduel. Donc, il y a forcément des cas d'études qui vont être un petit peu intermédiaires. Alors, on considère en général que deux espèces sont définies par la possibilité effective de se reproduire ensemble. Donc, en général, on considère que deux populations constituent deux espèces quand elles arrêtent de se reproduire ensemble, c'est-à-dire qu'elles arrêtent d'échanger des gènes.
Ce que vous appelez l'isolement reproducteur, c'est ça?
Voilà. Donc, c'est quand on peut mettre en évidence qu'il y a isolement reproducteur qu'on peut considérer que deux espèces sont séparées.
Alors, on se représente généralement l'arbre du vivant comme des branches qui se divisent, et une espèce ancestrale qui donne au moins deux espèces nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de nouvelles espèces qui seraient nées de ce processus?
Alors, des nouvelles espèces récentes, c'est toujours forcément, comme je viens de le dire, quelque chose d'assez graduel. Donc, on va avoir des cas peut-être d'espèces qui ne seront pas forcément aussi différentes que ce qu'on imagine. Par exemple, on a deux girafes en Afrique, les girafes d'Afrique et les girafes réticulées, qui sont aussi en Afrique d'ailleurs. Je ne sais pas comment s'appelle la girafe non réticulée. Voilà, donc on a deux espèces de girafes. On a aussi mis en évidence récemment qu'il y avait probablement plusieurs espèces d'éléphants, avec des éléphants de de savane et des éléphants de forêt, par exemple.
Mais à l'œil nu, on ne les différencie pas, ces
Alors, si, je pense que les personnes qui se sont penchées là-dessus trouvent des différences morphologiques. Les éléphants de forêt sont plus petits, par exemple. Voilà, on a aussi des différences, par exemple, chez les poissons, des différences des espèces très récemment, ou en tout cas assez proches entre elles, par exemple, chez le loup de mer, qui est différencié du bar depuis, ce sont des espèces très proches. On a aussi dans beaucoup de cas de poissons des écotypes où on ne sait pas trop si c'est des espèces ou pas des espèces, mais qui correspondent à des adaptations particulières à des conditions écologiques de lagunes ou de pleine mer.
Et oui, justement, vous parlez, c'est finalement ces petits éloignements-là, vous dites que ça peut être donc une barrière géographique ou une barrière écologique. Alors j'avais pris un exemple qui finalement, vous m'avez dit, se situe un peu entre les deux, les pinsons de Darwin. Donc il y a une barrière géographique parce que c'est sur des îles différentes, et finalement c'est écologique aussi, c'est ça ?
Alors les pinsons de Darwin, c'est une radiation, donc il y a beaucoup de branches déjà, c'est déjà un petit buisson en quelque sorte sur l'arbre de l'évolution. Donc il y a une partie de cette divergence qui est due à l'isolement géographique des différentes lignées sur les différentes îles. Effectivement, si elles se rencontrent plus jamais parce qu'elles sont sur des îles différentes, à ce moment-là, elles peuvent accumuler des différences entre elles qui vont les empêcher de se reproduire par la suite si jamais... des migrants arrivés, par exemple. Donc ça peut stopper le flux de gènes. Mais on a aussi, chez les pinsons de Darwin, des adaptations écologiques sur les ressources différentes. Alors on a des adaptations à la fois, parce que les différentes îles des Galapagos, par exemple, sont différenciées écologiquement. Il y a des îles plus sèches, plus humides, etc., avec des végétations différentes. Et donc les pinsons sont adaptés à leurs conditions locales.
Mais on a aussi, voilà... de la graine, c'est ça, en gros.
Alors voilà, mais on a aussi, au sein de chaque île, souvent, des différences entre plusieurs espèces de pinsons qui sont adaptées, par exemple, à des graines de tailles différentes. Et ça se traduit en général par une sélection sur la taille du bec, une sélection naturelle qui favorise une certaine forme, une certaine taille de bec en fonction de leurs ressources principales. Donc c'est une forme de spécialisation par le bec. Mmh. Et il se trouve aussi que les pinsons de Darwin probablement ont des vocalisations différentes qui dépendent aussi de leur bec.
Alors, on va rentrer un peu plus précisément dans votre étude, donc, qui démontre que le vivant ne se comporte pas toujours de cette façon. Et vous prenez l'exemple d'un papillon amazonien qui s'appelle Heliconius elevatus. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire ce papillon ? À quoi il ressemble ? Où est-ce qu'il vit ?
Alors, c'est un papillon tropical qu'on rencontre uniquement du côté amazonien de l'Amérique du Sud. Donc, c'est un papillon assez noir avec des ailes... très sombre, mais avec des rayures rouges très voyantes, qui forment une sorte d'éventail rouge sur leurs ailes, sur la base des ailes et les ailes postérieures.
On vous mettra une petite photo sur le site. Alors, cette espèce, elle est apparue il y a 200 000 ans dans la forêt amazonienne, comme vous l'avez dit. Et donc, ce n'est pas une espèce qui donne naissance à deux espèces, mais là, bien deux espèces qui donnent naissance à une nouvelle espèce. Et donc, on parle d'hybridation. Ces deux espèces donc, qui se sont hybridées, qui sont-elles et comment vous savez que c'était il y a 200 000 ans, par exemple ?
Alors d'abord, on va présenter les acteurs, les deux parents de Heliconius elevatus. Il y en a un qui est très proche de Elevatus, justement, qui s'appelle Heliconius pardalinus et qui est un papillon qui lui ressemble par la forme un petit peu, mais qui est surtout orangé, tigré, en fait. On les appelle tigrés, orange et jaune. Et on a un autre parent qui s'appelle Heliconius melpomene et qui, lui, ressemble énormément morphologiquement à Heliconius elevatus. Donc il est aussi noir avec ses rayures rouges, mais il est beaucoup plus éloigné génétiquement. Donc on sait qu'ils ont divergé il y a à peu près 3 à 4 millions d'années. Alors que Heliconius pardalinus et Elevatus, qui sont très proches, ont divergé l'un de l'autre il y a environ 200 000 ans. Alors comment on sait ça ? C'est en étudiant leur génome, donc c'est en regardant leur caractère génétique et donc en étudiant leurs différences dans leur ADN qu'on a pu mettre en évidence cet âge. Et cet âge, il est calculé en fonction d'une forme d'horloge moléculaire, c'est-à-dire que l'ADN de génération en génération accumule des mutations. C'est un processus qui a lieu à chaque division cellulaire et à chaque formation de gamètes, mais c'est quand même un phénomène qui est très rare dans le génome. Et donc, on peut quantifier l'accumulation, on peut quantifier l'âge de deux populations en comparant leur variation génétique et en quantifiant cette variation génétique. Et donc, plus il y a de mutations qui sont particulières à l'une et à l'autre des deux populations, plus leur divergence est ancienne.
Et donc là, les trois espèces, donc les deux espèces parents et la nouvelle espèce, continuent de coexister actuellement.
Voilà. Alors, c'est ça aussi une des spécificités de ce cas d'étude, c'est que l'espèce hybride, donc Elevatus, coexiste à la fois avec son espèce très proche et son espèce beaucoup plus éloignée, enfin son parent très proche et son parent éloigné, dans les mêmes zones géographiques. Alors en fait, il faut quand même dire que, même si on les trouve un peu ensemble, ils ont des petites spécificités de microhabitat quand même qui les différencient un petit peu et qui peut-être affectent la probabilité qu'ils se rencontrent. Mais n'empêche qu'on les trouve, ils sont grosso modo, ils sont en coexistence dans les mêmes forêts.
Alors justement, on va parler un petit peu de ces forêts. Cette étude, elle est le fruit de 10 ans de travail et de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce terrain? Est-ce que vous êtes parti avec un filet à papillons dans ces forêts pour attraper ces papillons? Comment ça s'est passé?
Alors oui, d'abord oui, on va dans ces forêts pour attraper ces papillons avec un filet à papillons. C'est effectivement comme ça qu'on travaille. Ce sont des espèces sauvages. Même si nos recherches sont en grande partie basées sur l'expérimentation et donc de l'élevage de ces papillons, il faut établir des élevages à partir de papillons sauvages. Pour étudier les génomes des papillons en général, il faut qu'on aille capturer les papillons qui représentent leur population d'origine, et donc on va les capturer dans la nature, effectivement. Alors, c'est pas... On va avec un filet à papillons, on n'est pas avec une machette en train de défricher, on les capture en fait dans des zones qui sont faciles d'accès parce qu'on travaille sur des papillons qui en fait sont assez communs. Donc on n'a pas besoin d'aller dans des zones très reculées.
Forêt amazonienne, oui.
Voilà. Alors on est quand même dans la forêt amazonienne, ça reste des forêts très denses avec énormément d'insectes et donc un foisonnement de vie qui est caractéristique des forêts tropicales. Voilà. Mais on va les chercher essentiellement dans des forêts accessibles.
Et dans ce foisonnement, justement, pourquoi vous avez choisi d'aller vous intéresser à ces espèces-là en particulier ?
Alors, c'est des espèces qui sont connues depuis longtemps. Elles sont connues parce qu'elles sont différentes et qu'elles sont assez communes. Donc, tout le monde, enfin, n'importe qui travaille sur Heliconus ou même n'importe quel collectionneur de papillons qui irait dans ces forêts-là rencontrerait ces espèces et les considérerait comme deux espèces. En fait, c'est en étudiant leurs différences génétiques, justement, c'est en comparant leur génome qu'on s'est intéressé à leur histoire de séparation lors de la spéciation, donc la formation des espèces, puisqu'on s'est rendu compte que Elevatus et Pardalinus, qui pourtant sont si différents morphologiquement, sont incroyablement proches génétiquement. Et donc ça a éveillé des soupçons en se disant, mais alors s'ils sont si proches, c'est qu'ils échangent beaucoup de gènes, et pourtant ils restent séparés écologiquement et morphologiquement. Donc il y a certaines parties de leur génome qui continuent à transiter d'une espèce à l'autre, donc elles continuent visiblement à échanger des gènes, mais il y a quelques parties, donc quelques caractères qui sont spécifiques à l'une et l'autre espèce, qui eux ne transitent pas entre les espèces et qui les isolent reproductivement.
Alors justement, c'est parfait, vous me faites un pont en or, vous avez eu recours à des études génétiques, donc vous parlez de flux génétiques avec Heliconius pardalinus, donc son parent proche, qui homogénéise 99% donc, de leur génome, entre les deux. Les 1% restants, donc ils viennent de Heliconius melpomene, le plus éloigné, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc ce que vous dites, que Elevatus, il est beaucoup plus proche que pardalinus, j'arrive pas à retenir encore.
Oui, alors Elevatus et Pardalinus sont extrêmement proches et ils sont séparés et donc ils sont isolés reproductivement l'un de l'autre grâce à des caractères que justement nos recherches ont permis d'établir et de caractériser, donc des caractères de vol, de microhabitat, de préférence de plantes hôtes, enfin de plantes nourricières, de choix de partenaires, de coloration. Aussi des différences chimiques sur leurs phéromones. Et donc ces caractères-là les isolent. Mais néanmoins, il arrive qu'ils se reproduisent entre eux et forment des hybrides qui vont ces hybrides vont se rétrocroiser, donc ils vont transférer par croisement avec les populations parentales, donc probablement avec le plus probablement avec Pardalinus, vont retransférer du matériel entre Elevatus et Pardalinus, ce qui fait que l'essentiel du génome peut transiter de temps en temps entre les espèces, très rarement, mais ça arrive quand même, sauf les parties qui justement les isolent normalement la plupart du temps justement. Et ces parties-là et ces caractères-là, eux, ne transitent pas. Ils restent toujours ensemble.
Alors, du coup, ça veut dire, si on a bien compris, que Melpoménée, c'est seul 1% qui l'a transmis. Ils sont déterminants, du coup, pour la reproduction et pour la survie de l'espèce. Un seul pour cent, ça suffit à déterminer l'avenir de l'espèce ?
Alors oui, d'une certaine manière. Alors, disons que le 1% qui provient de Melpoménée, c'est quelque chose qui a dû à, donc c'est quelque chose qui visiblement est arrivé d'après nos calculs il y a environ 200 000 ans. Donc des hybridations avec Melpoménée qui ont formé des hybrides qui étaient probablement ressemblant à Elevatus. Donc avec des caractères qui ressemblent finalement à Melpoménée. Melpoménée et Elevatus se ressemblent physiquement, donc probablement que la coloration des hybrides devait être semblable. Et ensuite, en fait, Elevatus, le proto-Elevatus, donc l'ancêtre d'Elevatus au moment où cette hybridation s'est formée, a commencé à s'isoler, à garder ses caractères de Melpoménée, qui ont déterminé son adaptation à une nouvelle plante hôte et qui ont aussi déterminé l'absence de reproduction avec Pardalinus, donc son espèce sœur, en quelque sorte, donc son espèce ancestrale.
Donc oui, si on résume, donc on a Elevatus qui est l'hybride, mais qui n'est plus censé se reproduire avec ses deux parents. Elevatus est censé aller avec Elevatus. Il ne se reproduit plus avec Melpoménée et éventuellement, par contre, avec...
Pardalinus.
Pardalinus, merci. Il ne veut pas rentrer, celui-là. C'est ça.
C'est ça. Donc, en fait, c'est comme si on avait une sous-population de Pardalinus qui se séparait de Pardalinus à la faveur de l'hybridation et de la conservation de ces quelques 1% de Melpoménée qui détermine justement à la fois sa spécialisation écologique, mais aussi ou l'isolement reproducteur avec Pardalinus.
Alors justement, ils ne sont pas censés, vous venez de le dire, se reproduire ensemble dans la nature, mais vous, en captivité, vous avez procédé à des croisements. Comment vous avez fait pour les forcer à se reproduire ?
Ah, en fait, si on leur donne pas trop le choix, si on met des mâles d'une espèce avec des femelles de l'autre, ils n'ont pas le choix. Et donc, on peut forcer des croisements comme ça. Alors, en fait, ce n'est pas si difficile que ça, parce que, en fait, ils ne se reproduisent pas naturellement, facilement dans la nature, puisqu'ils préfèrent les individus de leur propre espèce. Mais vous ne leur donnez pas le choix, ils vont trouver que l'autre espèce est finalement pas si mal.
C'est l'histoire de si on était tous les deux sur une île déserte.
Voilà, et donc on peut... Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile à faire en captivité. Parfois, il y a une direction de croisement qui est plus facile que l'autre, parce que bon, il y a des spécificités de chaque espèce. Ensuite, donc on peut les forcer, mais on peut aussi leur donner le choix. On peut aussi leur poser la question de avec qui ils se reproduisent préférentiellement. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, dans une cage des femelles d'une espèce et vous lui donnez le choix entre les mâles des deux espèces. Par exemple, vous mettez des femelles Elevatus et vous lui mettez des mâles Elevatus et Pardalinus et vous pouvez quantifier la propension que les femelles vont avoir à se reproduire avec l'une ou l'autre.
Et
le plus souvent, justement, c'est là qu'on peut montrer qu'il y a un choix de partenaire qui intervient, c'est que quasiment tout le temps, les femelles vont préférer les individus de leur propre espèce. Ça montre qu'effectivement, si on leur donne le choix, elles préfèrent leur propre espèce. Et donc, on peut montrer que l'isolement reproducteur a lieu même s'il y a un choix possible. Okay. Et ensuite, si on ne leur donne pas le choix, elles peuvent quand même finir par se reproduire avec l'autre espèce. C'est probablement dans ce genre de conditions-là que dans la nature, ça peut arriver quand même de temps en temps qu'il y a des femelles qui... S'il y a une baisse de densité de population, par exemple, on fait avec ce qu'on trouve.
Alors, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, justement, on parle beaucoup donc d'effondrement de la biodiversité. Finalement, ces possibilités d'hybridation, c'est plutôt une bonne chose ou au contraire, ça comporte des risques d'extinction justement de certaines espèces ?
Alors oui, l'hybridation est souvent présentée comme quelque chose de négatif. En fait, c'est quelque chose qui a lieu tout le temps. C'est même consubstantiel de la séparation des espèces. C'est forcément un processus graduel. Et donc, on a forcément à un moment des populations qui sont un peu différentes qui vont continuer à échanger quand même des gènes par hybridation. Donc l'hybridation, c'est vraiment un phénomène tout à fait normal dans le cours de l'évolution. Mais à partir du moment où on a deux entités qui sont assez différentes entre elles, la reproduction donne ce qu'on appelle des hybrides. Alors ça peut être quelque chose qui peut être inquiétant dans le cas, par exemple, de certains cas de conservation où on pourrait avoir une dilution d'une espèce un peu menacée ou de populations qui sont à très faible démographie qui pourraient être menacées par... une hybridation massive avec une autre espèce beaucoup plus abondante, par exemple.
Le chat sauvage,
c'est... Enfin, l'hybridation avec le chat domestique représente une inquiétude d'un point de vue de la conservation. On peut aussi penser que l'hybridation, c'est aussi une façon, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on met en évidence dans d'autres études, c'est que l'hybridation, elle peut apporter des caractères bénéfiques qui vont être sélectionnés dans la population où ils arrivent. Donc si on forme des hybrides, ils peuvent aussi transférer des caractères, des allèles, donc du matériel génétique qui code pour des caractères qui peuvent être au contraire... intéressants sur le plan écologique, qui peuvent permettre de s'adapter à des nouvelles conditions ou peut-être expliquer qu'on réagit mieux, par exemple, à des changements environnementaux.
Climatiques, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Joron.
Merci.
C'était passionnant. Et on passe maintenant donc à notre séquence reportage. Retour au semi-paille. Cette semaine, c'est Yara Tasrini et toujours Sébastien Lyonnais qui nous font découvrir un microscope automatique. Le seul dans son genre dans un laboratoire P3. Pour la petite histoire, il a été installé au tout début de la pandémie Covid-19, un peu en urgence, pour tenter de mieux comprendre ce virus. Comme vous allez l'entendre, le modèle utilisé est le poisson zèbre, mais au stade embryonnaire, avant le développement du système nerveux, pour éviter toute douleur.
C'est une caisse plus dans laquelle on a installé un gros microscope très récent grâce à un soutien de la région Occitanie qui nous a permis de financer ce microscope qui est un microscope automatisé qui est capable de travailler tout seul. On va aller voir Yara.
Bonjour Yara.
Bonjour.
Alors bonjour, je suis Yara Tasrini, je suis ingénieure de recherche à l'IRIM et avant mon poste à l'IRIM, j'ai travaillé pendant 2 ans au SEMIPAI pour mettre au point l'utilisation de ce microscope que vous avez derrière vous, le fameux Cell Discoverer 7 de Zeiss. Le but étant d'optimiser plein de techniques d'imagerie automatisées pour tout d'abord faire du criblage, donc screener le plus que possible. À la base, c'était des molécules antivirales. Et depuis mon poste là-haut, je continue à utiliser ce microscope que j'aime beaucoup.
Alors, il ne ressemble pas au microscope qu'on a l'habitude de voir. C'est un cube blanc.
C'est l'avantage de ce microscope, en fait. Tout ce que vous avez vu dans les autres microscopes sont là. Ils sont dedans. Donc là, je suis en train d'ouvrir le cube. Et on a tout ce que vous avez vu, les objectifs, tout ce qu'il faut dedans. Et surtout, ça sert de chambre d'incubation, c'est-à-dire qu'on peut régler la température. Si on veut garder des cellules à 37 degrés, on les met dedans. Pour les zébrafiches, 28 degrés, on les met dedans et ils sont contents. On peut aussi, on a une arrivée de CO2 aussi, de gaz. On peut, donc en gros, on peut jouer sur la température, sur l'humidité, sur le CO2, sur l'atmosphère. Et voilà.
Et alors là, il y a quoi dedans ?
Donc tout d'abord, on va ouvrir la platine qui va nous permettre de, vous allez voir, sortir un espèce de tiroir dans lequel on va mettre notre boîte. Donc, tout est automatisé. Et une fois qu'on met la boîte, on va sélectionner, voilà, on lui dit de la re-rentrer. Pareil, il va re-rentrer la boîte. Il est en train de mesurer plein de choses. C'est quoi comme matériel ? Est-ce que c'est du verre ? Est-ce que c'est du polystyrène ? C'est quoi comme type de boîte ? Moi, je lui ai dit que c'est une plaque 96 pu, par exemple. Et en fonction de ce qu'il détecte, il règle tout. Pourquoi le zebrafish ? C'est un modèle... on appelle ça un modèle alternatif. C'est-à-dire, éthiquement, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le zebrafish que d'utiliser, par exemple, des souris. Comme on travaille sur l'embryon, on peut avoir un nombre très très élevé d'embryons. Donc quand on a une banque de molécules, de 1000 molécules, c'est pas très éthique d'utiliser 1000 souris, alors que les embryons, on peut utiliser ça très très facilement. Et moi j'ai fait ma thèse sur le zebrafish, et justement j'ai été recrutée au SEMIPAI pour essayer de mettre en place ce modèle ici, pour infecter des embryons ici, sous cette hotte derrière vous, avec des virus en fait de classe 3 comme la dengue, le chikungunya et même le SARS-CoV.
Donc, voilà. Le but c'est le même, c'est d'essayer justement à travers les zébrafiches de trouver des traitements.
Oui. Alors le but c'est de faire des traitements, sachant que c'est un organisme qui est transparent. On peut utiliser des virus fluorescents, on peut marquer les cellules du zébrafiche et regarder en temps réel qu'est-ce qui se passe, où est-ce que le virus va se cacher, quels organes il va aller infecter, et derrière mesurer la fluorescence en fait de l'embryon et voir si après traitement d'une molécule on a une baisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a d'abord une visualisation de notre plaque, par exemple ici. Là, c'est des cellules, c'est pas du zébra, c'est juste pour vous montrer vite fait. On a des cellules qui sont infectées avec des bactéries qui sont vertes. Et l'avantage de ce microscope, c'est qu'il est doté d'un module qui nous permet d'analyser. Par exemple, ici, il est capable de reconnaître quelles sont les cellules et dans une cellule, quelles sont les bactéries, mesurer cette fluorescence au cours du temps et voir si on a un changement ou pas.
Elles font quelle taille, les cellules qu'on regarde, là ?
Là, on est environ sur du 10 micromètres. C'est des macrophages, ils ne sont pas très contents parce qu'ils sont infectés par des vilaines bactéries. Voilà, vous voyez.
Et les couleurs, on voit du bleu, du jaune, ça, oui, du vert.
Alors oui, ça c'est tout ce qui est artificiel, c'est-à-dire normalement, je peux enlever. Normalement, on voit le bord de la cellule, on voit la bactérie qui est verte. Et une fois qu'on programme l'ordinateur ou le microscope à reconnaître qui est quoi, il va nous entourer les cellules en jaune et les bactéries en bleu. Ou les cellules en rose et les bactéries en jaune. On lui dit, on choisit les couleurs, on choisit tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'était vite fait pour les cellules. Pour les zébrafiches, où êtes-vous ? Et voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'une plaque 96, puis avec des embryons.
Et en vrai, ils font quelle taille, les embryons ?
Alors, vous allez voir là, je vous montre tout de suite. L'avantage, justement, aussi de ce microscope, c'est qu'on peut mettre une échelle. Et donc là, notre embryon, normalement, on est sur du 2 mm. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais vous voyez, voilà, entre 2 et 3 mm. Donc là, en rouge, vous avez des bactéries qui sont fluorescentes. Vous voyez ?
C'est quelle bactérie qui est
avec l'infect ? C'est des mycobactéries ici. Donc on a injecté des zébrafiches avec des souches différentes de mycobactéries qu'on regarde au cours du temps. L'avantage, c'est que vous voyez, il est bien transparent. Donc on peut très très bien voir où sont localisées les bactéries. Notamment, par exemple, ici, au niveau de la queue. Si on bouge, voilà, on les voit. Si on zoome encore plus, on peut bien les voir en 3D au niveau de la queue.
Et vous pouvez faire bouger l'image comme ça,
oui,
en 3 dimensions.
Voilà, on peut tourner l'image comme on veut en 3 dimensions. Et si on zoome encore, c'est encore plus impressionnant. On arrive à voir des bactéries individuelles. Vous voyez les bâtonnets rouges.
Ça grossit combien de fois là ce qu'on regarde ?
Alors là, c'est du 50 fois. C'est du 50x. Et pareil. On arrive à avoir une résolution qui est quand même assez, assez incroyable. À regarder, on est dans un poisson zèbre, dans la queue d'un poisson zèbre, dans les cellules, et on arrive à quand même voir les bactéries individuelles une par une. Et tout ça, on peut monitorer ça en présence d'une drogue qui va venir inhiber les bactéries et comparer. Est-ce que l'embryon qui est traité va évoluer mieux qu'un embryon qui est non traité pour évaluer l'efficacité d'antibiotiques ou d'antimicrobiens en général ? Voilà, ce microscope est juste incroyable.
La semaine prochaine, vous entendrez notre dernier épisode au Sémipaille. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Et c'est Nathan Roure, chargé des relations presse à l'Université de Montpellier. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci beaucoup.
Donc tu viens nous présenter le prochain Bar des sciences qui se tiendra le jeudi 13 juin. Donc attention, on change un peu la formule pour ce dernier numéro de la saison, c'est ça ?
Effectivement, quatrième édition et dernière de la saison. Cette fois-ci, ça se passera du coup le jeudi 13 juin à 19h à la médiathèque Émile Zola, au 218 boulevard de l'aéroport international à Montpellier précisément.
Donc une petite infidélité au Dôme, souvenez-vous-en, et c'est 19h au lieu de 20h.
C'est ça, ce sera à 19h.
Alors quel thème a été choisi pour cette dernière édition avant les vacances ?
Alors le thème choisi sera celui de la biodiversité, et plus précisément celui de la migration des populations animales et végétales depuis l'aube des temps.
Alors les intervenants ?
Alors il y en aura deux. Le premier, c'est Fabien Antelme, qui est écologue à la MAP. Donc la MAP, c'est le botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations, une unité qui travaille à l'acquisition des connaissances fondamentales sur ces dernières.
D'accord, donc un spécialiste des plantes. Et le deuxième ?
Et le deuxième, du coup, donc avec les récentes découvertes concernant le déplacement des plaques tectoniques qui nous aident justement à mieux comprendre l'émigration des espèces animales et végétales, on recevra Jean-Jacques Cornet, qui est docteur émérite CNRS et membre du laboratoire géosciences à l'Université de Montpellier.
Ok, donc un point de vue un petit peu original sur la migration des espèces en passant par la tectonique des plaques. Pas mal. Alors, on rappelle la formule du Bar des sciences. C'est pas une conférence, c'est un échange.
C'est ça. Donc déjà, le Bar des sciences est devenu l'un des événements phares de culture scientifique à Montpellier. Et c'est un débat participatif et citoyen autour de toutes les sciences où des scientifiques sont invités à s'engager dans un dialogue où leurs connaissances et leurs pratiques sont certes partagées mais peuvent aussi être discutées. Donc on est plus sur des débats que sur une conférence classique.
On rappelle les informations pratiques. Ça se passe où ?
Ça se passe du coup à la médiathèque Émile Zola au 218 boulevard de l'aéroport international à Montpellier.
Et donc le 13 juin prochain à 19h, attention, c'est avancé d'une heure par rapport au programme habituel. Merci beaucoup Nathan Roux.
Merci à vous.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.